RFI, il est 9h10 en Haïti, le moment de retrouver le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Il vous est présenté par Maïwenn Bordron. Bonjour Maïwenn.
Bonjour Valentine.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, une humiliation pour Donald Trump venu de son propre camp. 12 sénateurs républicains ont voté hier en faveur d'une résolution démocrate sur la question du mur à la frontière avec le Mexique. Plus d'explications de notre correspondant aux États-Unis et analyse des réactions dans la presse. À suivre également les activités qui reprennent lentement au Venezuela après plusieurs jours de panne d'électricité. Tous les secteurs, comme les transports, ne fonctionnent pas encore normalement. Reportage à Caracas, la capitale. Nous irons à Rio de Janeiro, au Brésil, où des hommages étaient organisés hier, un an après l'assassinat de la militante de gauche Marielle Franco. Enfin, notre dossier des Amériques est consacré aujourd'hui au cannabis au Canada. Ça fait presque 5 mois qu'il a été légalisé et des universités dispensent désormais des cours sur la marijuana, vous l'entendrez. C'est un revers de taille pour Donald Trump. Le président américain a été désavoué hier par sa propre majorité au Sénat sur la question du mur avec le Mexique. 12 sénateurs républicains ont voté en faveur d'une résolution proposée par les démocrates. Objectif, annuler l'état d'urgence national déclaré par Donald Trump à la frontière mexicaine. L'état d'urgence qui doit lui permettre de financer la construction du mur. Correspondance aux États-Unis d'Éric de Salve.
C'est une humiliation venue de son propre camp contre sa promesse la plus emblématique, le mur anti-immigration sur la frontière mexicaine. Au Sénat, les républicains détiennent une majorité de 53 sièges sur 100 et pourtant ce jeudi, 59 sénateurs dont 12 républicains ont soutenu une résolution démocrate pour annuler la déclaration d'état d'urgence national de Donald Trump. Cet état d'urgence qui lui permet de débloquer des fonds de l'armée pour financer son mur en contournant le Congrès. Depuis plusieurs jours, craignant ce désaveu, le président américain lance des appels à sa majorité sur Twitter affirmant que voter en faveur de cette résolution démocrate revenait à voter pour la criminalité. Mais le nombre de frondeurs n'a cessé d'augmenter ces derniers jours. C'est un vote pour la Constitution et pour l'équilibre des pouvoirs, explique, comme la plupart des rebelles, le républicain Mitt Romney qui vote avant tout contre le contournement du Congrès qui a refusé de financer le mur de Trump après 35 jours de shutdown en janvier. Ce nouveau camouflet parlementaire oblige en tout cas Donald Trump à utiliser pour la première fois de son mandat son veto président pour faire passer l'état d'urgence malgré l'opposition du Congrès. Éric de Salve, San Francisco, RFI.
Et Stéphanie Schuller nous a rejoint en studio pour la revue de presse des Amériques. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Maïwenn, bonjour à tous.
Stéphanie, beaucoup de réactions évidemment dans les journaux outre-Atlantique aujourd'hui après ce vote au Sénat de Washington.
Oui, tout à fait. Ce jeudi, démocrates et républicains ont envoyé un message clair à Donald Trump. Arrêtez d'essayer d'usurper l'autorité du Congrès, écrit par exemple le St. Louis Post-Dispatch, un journal local du Missouri. Le New York Times, quant à lui, salue ce qu'il qualifie d'accès d'indépendance observé chez au moins une partie des élus républicains et estime que le mépris constant du président pour les normes démocratiques est devenu trop un geste pour l'estomac de certains membres de sa famille politique.
D'autres journaux se concentrent, eux, davantage sur les sénateurs républicains qui ont voté contre le rejet du décret présidentiel et qui ont donc soutenu Donald Trump.
Pourquoi les républicains se sont-ils alignés sur un homme qui a parfois ciblé son propre parti et ses dirigeants, s'interroge le Washington Post. Pourquoi les conservateurs défendent-ils un chef dont les points de vue sont tout sauf conservateurs quand il s'agit du commerce ou de la politique étrangère? Pourquoi les conservateurs religieux ont-ils adopté l'incarnation même de la déviance, ceux qui violent leurs propres croyances pour obtenir un gain politique sont désormais mentalement investis dans leur choix, estime le quotidien. Admettre que Trump est une force chaotique et destructrice dans la politique américaine nécessiterait de se juger soi-même. Mais justement, cette introspection semble faire défaut à certains, s'injure de son côté USA Today, qui dénonce, non sans sarcasme, l'hypocrisie sans limite de ces 41 sénateurs républicains qui ont préféré rester fidèle à la royauté. Parmi ces pions du roi Trump, comme les surnomme le journal, il y en a qui, à l'époque, avaient été les premiers à tonner contre le président Obama pour ses soi-disant excès de pouvoir.
On reste encore aux États-Unis, Stéphanie, où la Cour suprême du Connecticut a pris hier une décision tout à fait inédite.
Oui, par un jugement serré de 3 magistrats contre et 4 pour, la Cour a statué hier que le fabricant américain d'armes Remington pourra être jugé pour les publicités sur son fusil d'assaut à AR-15. Un fusil qui est devenu l'arme de choix des auteurs de tueries de masse, souligne le Hartford Courant, un journal local du Connecticut. Et c'est aussi ce fusil qui a utilisé Adam Lanza pour tuer en décembre 2012 26 personnes, dont 20 enfants, dans l'école de Sandy Hook à Newton. Les familles de ces victimes avaient saisi la justice pour demander des dommages et intérêts au fabricant Remington et à sa filiale Bushmaster, rappelle encore le journal. Déboutées en première instance, les familles s'étaient tournées donc vers la Cour suprême du Connecticut.
Qu'est-ce qui leur a permis d'obtenir gain de cause, Stéphanie ?
Leur avocat s'est notamment appuyé sur le marketing de Bushmaster, qui avait présenté le fusil AR-15 dans sa publicité, non comme une arme de sport ou d'autodéfense, mais bien comme une arme ultime de combat, écrit encore le Hartford Courant. Une méthode de marketing tout à fait irresponsable et qui promeut un comportement criminel, ont estimé hier les juges.
Cette sentence risque donc d'avoir de lourdes répercussions pour les fabricants américains d'armes à feu.
Absolument. Absolument, Maïwan, USA Today prévient en tout cas, en se prononçant contre un fabricant d'armes, la Cour suprême du Connecticut semble avoir ouvert une brèche dans le bouclier juridique, ce qui pourrait donner lieu à davantage de poursuites à l'encontre de l'industrie de l'armement.
L'actualité du Nicaragua à présent, où une partie de l'opposition au président Daniel Ortega est de retour à la table des négociations.
Après 3 jours de blocage, les 5 représentants du monde de l'entreprise et de la société civile ont repris le dialogue avec la délégation du gouvernement. La raison, les autorités nicaraguayennes ont promis de libérer ce vendredi une partie des prisonniers détenus depuis, comme vous le savez, les manifestations anti-gouvernementales de l'année dernière, rapporte El Nuevo Diario. La délégation des étudiants, elle, n'est pas retourner à la table des négociations, souligne la prensa. Les jeunes veulent d'abord des faits, explique le journal.
Est-ce que l'opposition du pays est désormais divisée ?
Alors non, estime en tout cas Mario Arana, membre d'Alianza Civica et qui a donc repris le dialogue avec le gouvernement Ortega hier. Je vous propose de l'écouter.
Nosotros realmente los que hemos decidido seguir adelante.
Nous avons pris la décision de continuer et d'avancer les négociations parce que nous espérons réussir à atteindre les objectifs stratégiques que nous partageons avec toute l'opposition, même avec ceux qui ne sont pas à la table des négociations. Le premier objectif est de faire libérer tous les prisonniers politiques. Nous sommes tous d'accord sur ce point. Si différences il y a, elles sont d'ordre tactique. Nous croyons qu'il est possible d'obtenir ces libérations dans le cadre des négociations, même si ce processus est compliqué. Quelques-uns pensent que la libération des prisonniers doit être une condition préalable au dialogue. Nous, au contraire, nous pensons que le fait d'imposer des conditions préalables empêche l'avancement des négociations. Il s'agit d'une tactique différente, mais au fond, toute l'opposition est d'accord sur cet objectif stratégique.
Mario Arana, membre d'Alianza Civica, interrogé par notre collègue Raphaël Moran.
Direction le Venezuela, où l'activité reprend lentement après presque une semaine de paralysie. Une gigantesque panne d'électricité a plongé la quasi-totalité du pays dans le noir. Difficile encore de chiffrer l'ampleur des dégâts, notamment à cause de nombreux pillages. À Caracas, la capitale, en tout cas, les conséquences de la panne de courant sont toujours visibles. Reportage de notre correspondant Benjamin Delisle.
Dans la capitale, la vie reprend doucement, notamment grâce à la réouverture du métro. Une réouverture partielle, toute une section est encore bloquée. À la station de Chacaito, Espinosa Yurimar guide les usagers vers des bus gratuits mis en place par le gouvernement.
Ils assurent le trajet là où le métro est arrêté. Le système devrait reprendre parce que le courant est stable. On n'a plus de problème d'électricité. Mais la coupure a endommagé certains générateurs qu'il faut remplacer pour que le métro fonctionne à nouveau.
La file d'attente est longue, mais elle avance vite car les bus se succèdent, témoins d'une reprise difficile qui affecte tous les secteurs. Après près d'une semaine de paralysie, les queues sont légion dans toute la ville, devant les commerces, les pharmacies ou encore les banques. Marie attend depuis une heure pour retirer un peu d'argent. Elle reste positive et dit ne pas avoir peur d'un nouveau dysfonctionnement comme cette coupure.
C'est sûr qu'il y a un risque, mais maintenant on sait qu'on doit prévoir des réserves au cas où. Et même sans être préparé, on a bien survécu. Avec la crise, le Vénézuélien est devenu résistant. Il faut aller de l'avant. On n'a pas le choix.
Trop content de retrouver une vie un tant soit peu normale, les Vénézuéliens retrouvent le sourire, quitte à oublier l'état critique de l'économie et l'avenir plus que jamais incertain du pays. Benjamin Delisle, Caracas RFI.
Stéphanie, en tout cas, le réseau électrique montre toujours des signes de faiblesse au Venezuela.
Oui, la grande ville de Maracaibo, dans l'état de Zulia, est retombée dans l'obscurité hier après des explosions constatées dans plusieurs centres de distribution par lesquels passe l'alimentation électrique, rapporte El Universal. Selon El Nacional, une explosion a également eu lieu au centre de distribution de Talcahuaria, dans l'état de Miranda, ce qui a coupé l'alimentation électrique de deux municipalités. Maïwenn.
Merci Stéphanie Schuller pour votre revue de presse des Amériques. Au Brésil, elle est devenue un symbole de résistance. Des milliers de personnes étaient réunies hier pour rendre hommage à Marielle Franco. Au Brésil donc, mais également à l'étranger, cette militante de gauche engagée contre le racisme et l'homophobie a été assassinée il y a un an. Depuis, les Brésiliens continuent de réclamer justice. Deux anciens policiers ont été arrêtés en début de semaine, mais l'enquête est loin d'être terminée. Reportage à Rio de Janeiro de notre correspondante Sara Cozzolino.
Nous sommes devant l'endroit exact où Marielle a été tuée de 4 balles dans la tête. Une rangée de femmes noires en robe blanche se tiennent la main.
Pour la vie, pour la mémoire et pour la justice, Marielle. Présente.
Les hommages ont lieu un peu partout dans Rio. Roseni Lena a quitté son travail plus tôt pour pouvoir manifester dans le centre. Cette assistante sociale, noire et habitante de favela, avait voté pour Marielle Franco.
Marielle a été tuée à cause de tout ce qu'elle représentait dans la société brésilienne. C'est tout ce que l'élite méprise. Mais je pense que sa mort nous a réveillés et nous a donné envie de nous battre pour que personne ne lâche la main de personne.
2 jours après l'annonce de l'arrestation de 2 anciens policiers militaires, la question « qui a ordonné le meurtre de Marielle ?» est sur toutes les lèvres et toutes les banderoles. Renata Souza est députée de Rio.
Ça ne nous suffit pas d'avoir arrêté les tueurs de Marielle. Nous voulons aussi savoir qui a ordonné son assassinat et quelles ont été les motivations de cet assassinat si brutal et si violent.
Amie de Marielle Franco, Renata fait partie de celles qu'on appelle les héritières de Marielle. Des femmes noires qui portent son combat pour les droits des femmes et des minorités sur la scène politique. Une lutte devenue dangereuse, la députée est toujours obligée de se déplacer sous protection policière. Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
C'était il y a presque 5 mois, jour pour jour, le 17 octobre, le Canada légalisait le cannabis, devenant ainsi le 2e pays au monde à le faire après l'Uruguay. Les magasins spécialisés peinent aujourd'hui à faire face à la demande des consommateurs canadiens, à tel point que plusieurs provinces du pays se sont retrouvées en pénurie de cannabis. Autre effet un peu plus surprenant de la légalisation, des cours sur cette drogue douce sont désormais dispensés dans les universités comme à Toronto, Montréal ou encore Oshawa, une ville de l'Ontario. Une professionnalisation du secteur qui semble répondre aussi bien à la demande des étudiants que de l'industrie. C'est un dossier signé Margot Turgé.
Sur le site internet de l'université de Niagara, au sud-est du Canada, tout est fait pour séduire les étudiants. Photos d'une serre remplie de plants de cannabis, vidéos promotionnelles d'un partenariat avec une entreprise spécialisée. Meagan Battersby fait partie des 24 étudiants sélectionnés pour le programme de production commerciale de cannabis de cette université.
En ce moment, le cannabis est un secteur tellement florissant au Canada. Ce qui m'intéresse le plus dans ces cours, c'est qu'ils sont très spécialisés. Par exemple, un cours de biologie et d'évolution de la plante où j'apprends tout ce qui concerne la plante en elle-même. Je suis aussi un cours de méthode de culture où on fait des travaux pratiques pour apprendre à faire pousser la plante et voir quelle méthode marche le mieux.
Les étudiants n'apprennent pas seulement à être de parfaits connaisseurs de la plante, ils sont aussi formés à savoir la vendre, comme l'explique Brad Poulos, qui enseigne à l'université Ryerson de Toronto.
L'un des projets que l'on a donné aux étudiants, c'était d'établir un plan commercial spécifique au commerce du cannabis. À part ça, on leur enseigne la législation propre à cette industrie, les réglementations qui vont entrer en vigueur sur le marché. On leur apprend aussi à tenir leur comptabilité, qui est spécifique dans le domaine du cannabis. C'est un secteur qui va devenir extrêmement compétitif, rien qu'avec les Américains, qui sont de très gros concurrents. Donc, il faut que nous soyons compétitifs au niveau mondial.
Si les universités ont de grandes ambitions pour ces nouveaux parcours spécialisés, sur le cannabis. Elles sont aussi très exigeantes avec les étudiants qui veulent les intégrer. L'université McGill de Montréal a prévu d'ouvrir un cursus spécialisé en 2020. La doyenne du département d'horticulture, Anya Gettman, a déjà une idée très précise sur les profils qu'elle recherche.
Les participants doivent avoir une connaissance profonde de la biologie végétale ou des sciences horticoles. Pour avoir ces connaissances de base, il faut étudier la biologie végétale, la cultivation en serre. Il y a toute une série de cours qui préparent pour ça. Ensuite, nous, on ajoute avec notre programme les connaissances spécifiques pour la plante et l'industrie du cannabis.
Quant aux entreprises spécialisées dans le secteur, on compte plus de 130 licenciés au Canada. Elles ne peuvent que voir d'un bon œil cette future génération de salariés déjà formés. André Saint-Cyr, directrice des ressources humaines de l'entreprise EXO.
On est dans une industrie qui en est à ses débuts et en tant qu'entreprise, on vise vraiment l'excellence. On emploie en fait des professionnels dans plusieurs secteurs spécialisés, recherche et développement, ingénierie, biotechnologie, même aussi des postes professionnels au niveau administration et autres. Maintenant, si le milieu académique peut fournir cette formation-là de base au préalable, ça va nous permettre d'atteindre, je pense, un niveau supérieur et maintenir notre niveau d'excellence.
Les étudiants de ces cursus spécialisés auront en tout cas de nombreuses opportunités de carrière. Mais Agan Battersby, l'étudiante de l'Université de Niagara.
Je veux travailler dans l'industrie du cannabis à 100%. J'hésite entre devenir productrice ou contrôleuse de qualité des produits. Mais cette industrie est tellement jeune et il y a tellement d'options, les possibilités sont vraiment infinies.
Selon le cabinet d'audit canadien de 150 000 créations d'emplois sont attendues dans les prochaines années.
Dossier du jour des Amériques signé Margot Turgy. Le journal des Outre-mer présenté par vous aujourd'hui, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour Mayouen.
Benoît, en Guadeloupe, la centrale thermique du Moule va passer du 100% charbon au 100% biomasse.
Oui, cette centrale, qui a commencé à fonctionner en 2011, va, d'ici à 2020, en principe, fonctionner avec des CSR, combustibles solides de récupération, en meilleur français, déchets ménagers non recyclables. Éric Bagassien.
L'opérateur entend convertir 8 centrales à la biomasse, objectif qui toutefois ne pourra être atteint qu'à partir de 30 à 40% de ressources locales. Pour le reste, il devra importer de la biomasse de l'étranger. La conversion du charbon à la biomasse...
Je reçois votre retour, apparemment. J'entends...
5% ses émissions de CO2 net, un objectif qui ne permettra tout de même pas aux territoires comme la Guadeloupe d'atteindre l'autonomie énergétique en 2030. Pour sa centrale du Moule, Albioma Caraïbe vient d'obtenir un financement de 68 millions d'euros, un prêt qui servira à financer la réalisation de nouvelles infrastructures et des modifications des installations de la centrale en vue du passage à 100% biomasse, et cela en substitution totale du charbon. À terme, la Guadeloupe devrait passer de 20 à 35% en part d'énergie renouvelable, une avancée vers l'objectif des 50%. À l'issue de la réalisation de ces investissements, le groupe Albioma exploitera dans la Caraïbe 2 unités thermiques fonctionnant exclusivement à base de biomasse, Galion 2 en Martinique et donc le Moule.
On passe à l'exercice Carib Wave. C'était hier dans une trentaine de pays de la Caraïbe, une simulation de l'arrivée d'un tsunami, un exercice pratiqué chaque année, le but étant de préparer au mieux la population. Le colonel Tiburne est le directeur du service départemental d'incendie et de secours des pompiers de la Martinique. Il est au micro de Jean-Baptiste Anatole.
Une vague tsunami n'est pas une vague de houle. Une vague tsunami, c'est de la colonne d'eau dans son ensemble qui se déplace, poussée, qui est très puissante. C'est des tonnes d'eau qui se déplacent et qui, dans leur déplacement, un déplacement qui peut paraître lent, hein, puisqu'on est autour de 30-35 km/h de déplacement, mais qui pousse et qui emporte tout. On ne résiste pas à un tsunami. Donc les consignes, cet exercice a tout l'intérêt sur un scénario dit tsunami en zone proche. C'est les tsunamis les plus meurtriers au monde. Il a tout intérêt de préparer la population parce qu'il faut que cette population sache reconnaître les signes naturels d'arrivée d'un tsunami.
Est-ce que les sapeurs-pompiers sont suffisamment formés pour ce type d'opération ?
Ils sont de mieux en mieux formés. Les sapeurs-pompiers, oui, sont de mieux en mieux préparés, mieux en mieux conscients de ce risque, mieux en mieux préparés à y faire face.
Bon après-midi, Maïwenn. Bon week-end. À lundi.
Merci, Benoît Ferrand. Bon week-end à vous. Il est 14h et bientôt 30 minutes à Paris, 9h30 à Port-au-Prince en Haïti. C'est la fin de ce rendez-vous des Amériques et d'Haïti. Vous pouvez le réécouter sur notre site www.rfi.fr.